l'une des plus belles expressions pour exprimer ce qui a sous-tendu l'esprit de la réforme des cisterciens en 1098 et les années suivantes. Nous la trouvons dans la première lecture que nous avons entendue, qui résume tout, communion fraternelle. Nous savons que les premiers cisterciens, dans leur texte, ont revendiqué d'être les héritiers de la première communauté de Jérusalem. Ils y ont souvent fait mention, et elle a été pour eux le guide, l'inspiration. Mais qui dit communion fraternelle ne dit certainement pas uniformité. Communion fraternelle dit que chacun apporte ce qu'il est, met en commun ce qu'il a de meilleur. Et c'est une grâce pour l'ordre cistercien que d'avoir trois fondateurs successifs qui, justement, chacun illustre un charisme particulier. Et c'est cette union des charismes qui a permis l'éclosion de l'ordre cistercien et qui le permet encore aujourd'hui. Volontiers, j'attribuerai à saint Robert de Molème la foi. La foi parce que décider de quitter son monastère pour se lancer dans une fondation, c'est une grande aventure. C'est une grande aventure spirituelle, mais c'est d'abord une grande aventure humaine. Et il faut avoir une foi bien chevillée au corps, au cœur, pour se lancer dans cette aventure. Certes, Robert n'est pas le seul à prendre cette décision. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais enfin, il est celui qui est institué comme le guide de ce petit groupe qui va quitter Molème, qui était déjà un monastère bénédictin réformé, mais dont la réforme, sans doute, n'avait pas encore produit tous ses biens. Et c'est ainsi que Robert va partir avec ce groupe de 21 moines fondé sitôt. Et cette foi de Robert, je crois qu'il faut aussi la qualifier. Il s'agit d'une foi humble. Parce que ce Robert plein de zèle, au bout d'un an, va être rappelé sur ordre du pape lui-même pour rejoindre sa première communauté de Molème. Nous pouvons imaginer ce que ça représentait pour lui de déchirement, de détachement, pour laisser cet enfant qui naissait, si je puis dire, cette communauté nouvelle de sitôt, la laisser pour revenir à sa première communauté de Molème. Foi donc pour Robert. Nous savons que celui qui va lui succéder durant 9 ans, saint Albéric, va traverser, lui et ses frères, une période de désert. Oui, ils ont choisi un désert, sitôt, mais ils en subissent, si l'on peut dire, les conséquences. Il s'agit d'un lieu très insalubre, difficile à mettre en culture, très peu attirant, si peu attirant qu'il n'y a aucune vocation qui se présente sous l'abbatiat ou quasiment d'Albéric, qui va durer 9 ans. Albéric, homme de l'espérance, parce que certainement, à certaines heures, il s'est demandé avec ses frères, mais que faisons-nous? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ou bien est-ce que nous repartons à Molème, finalement retrouver notre abbé Robert? Ce questionnement, ils l'ont certainement eu dans leur cœur. Mais voilà, ils ont persévéré. Et cette persévérance qui est une si grande vertu monastique aussi et chrétienne, qui est l'expression peut-être la plus vraie, la plus existentielle de l'espérance, de la grande vertu théologale d'espérance. Parce qu'au fond, si nous persévérons, c'est parce qu'au fond de notre cœur, nous savons que nous pouvons compter sur quelqu'un qui, lui, ne se dérobe jamais, qui, lui, ne peut jamais nous décevoir. Tel a été le charisme d'Albéric. qui a permis la fécondité future. Et puis, bien sûr, il y a Étienne Harding, troisième abbé, qui succède à Robert et à Albéric, qui lui, j'ai envie de dire, il n'y est pas pour grand-chose, mais c'est effectivement ce qui se produit, va voir arriver un afflux de candidats autour de Saint-Bernard, le futur Saint-Bernard de Clairvaux, ce qui va marquer les débuts de l'éclosion extraordinaire de l'ordre de Cîteaux. Avec très vite cette question, comment s'organiser, puisque nous ne pouvons plus tous vivre en ce lieu, donc fondation, mais comment ne pas perdre le charisme essentiel? Et c'est de là que va naître ce texte absolument admirable, presque unique en son genre, qui sera très souvent imité, qui s'appelle la Charte de Charité. Son titre même indique l'esprit premier de ce texte. Avant d'être un texte juridique qui organise la vie entre les communautés, il s'agit de faire saisir que l'essence même qui doit régir les relations entre les communautés, on ne la perd pas de vue, c'est le cœur même du message évangélique, c'est la charité. Ainsi, vraiment, chacun de ces trois fondateurs a quelque chose de particulier à nous dire. Foi, espérance, charité. Et nous sentons bien que tout cela est au service de cette communion fraternelle. Vous avez remarqué comme moi ces redondances dans le texte des Actes des Apôtres entendu ce matin comme première lecture. Je les rappelle. Tous vivaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient entre tous. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Nous sentons que ce qui unit la première communauté primitive, c'est cette unanimité. Unanimité que les hommes ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Cette unanimité qui est fruit de la Pentecôte. Une Pentecôte qui est sans cesse à redécouvrir, si je puis dire, à réaccueillir dans l'Église, dans notre communauté, dans nos cœurs. Mais pour parvenir à cette communion, ce n'est pas sans labeur. Et c'est là que le dialogue à l'intérieur d'une communauté est si fondamental, si essentiel. C'est dans l'écoute mutuelle que s'ouvrent les chemins nouveaux, qu'apparaissent les nouvelles portes qui s'ouvrent, qu'apparaissent les solutions aux questions nouvelles, constamment nouvelles. C'est dans le souffle de l'esprit accueilli par chacun, mais par la communauté aussi en tant que telle, que Dieu nous fait avancer. Et au fond, nous voyons ça déjà dans les débuts de l'ordre cistercien, puisqu'il est très clairement raconté que, alors que les frères qui n'avaient encore pas bougé, qui étaient encore à Molème, pensaient à ce projet d'une fondation, ils discutaient entre eux. Ils évaluaient, ils pesaient. Mais est-ce que nous pouvons réaliser cette réforme que nous souhaitons pour revenir à un esprit plus fidèle à la règle de Saint Benoît? Est-ce que nous pouvons le faire ici, à Molème? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas carrément repartir de zéro? Et finalement, la grande question, c'était toujours rester ou partir? Et ils décident de partir. De partir pour mieux s'ancrer dans cette règle de Saint Benoît dont ils avaient un si grand amour. Et cela, évidemment, évoque tous les questionnements qu'ont traversé une multitude de communautés. Je n'en citerai qu'une qui nous occupe beaucoup en ce moment dans notre propre communauté. C'est le cas, bien sûr, des frères de Tibirine, qui eux aussi se posaient cette question. Partir ou rester? Au fond, la réponse n'avait pas une si grande importance. Ce qui était plus important, c'est qu'elle soit unanime. que chacun librement puisse se rallier à ce qui allait être décidé, afin de pouvoir l'assumer pleinement, à titre personnel, à titre communautaire. Eh bien, au fond, je crois que si les sept frères de Tibérine nous laissent un message, c'est qu'ils ont vécu à la lettre cet esprit des premiers pères cisterciens, mais adapté à leur situation. Comme chacune de nos communautés, je parle des communautés monastiques, mais je devrais parler des communautés paroissiales, je devrais parler des communautés que sont chaque famille, chaque couple humain déjà, est appelé à découvrir constamment les chemins nouveaux qui s'ouvrent à lui, à elle. Et c'est à travers cette écoute, et c'est à travers ce dialogue que se construit la communion fraternelle à laquelle nous sommes tous appelés.